Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Savez-vous qui est Paul H. Ray? Avez-vous entendu parler des indices de résilience? Connaissez-vous le terme glocal? Si vous répondez oui, alors vous partagerez sans doute le regard de mon invité. Vous répondez non? Alors cette conversation sera pleine de découvertes. Mon invité est Boris Marcel, un globe-trotteur, un jardinier des villes qui a choisi le thème des utopies concrètes et des zones de résilience pour guider notre discussion. Je n'en dis pas plus, le voyage peut commencer. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Boris.
Bonjour.
Merci de me recevoir chez toi. Enfin, ton chez-toi provisoire, si
exactement,
j'ai bien compris.
À Paris.
Mais de toute façon, finalement, à quelques semaines ou mois près, on aurait pu se croiser n'importe où en Europe. Parce que tu as mené un projet qui s'appelle Europe Tomorrow. Et d'ailleurs, il y a une plateforme web qui recense plein d'innovations sociales partout en Europe. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de te lancer dans cette aventure de l'innovation sociale européenne?
Alors, déjà, j'avais travaillé en France sur le secteur de l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat social. Et il me semblait, c'était à l'époque de la crise grecque, la crise des États, que l'Europe, de par son échelle à la fois globale et ses interactions locales, pouvaient être un espace-temps intéressant pour développer ce secteur qui est, on va dire, l'innovation sociale. Et en même temps, on en parlait de manière très négative à cette époque-là. La bureaucratie, le lobbying, l'Europe n'écoute pas les citoyens, etc. Et donc nous, notre postulat, c'était de montrer que l'Europe se devait de devenir le continent de l'innovation sociale et environnementale. Et qu'au lieu de réinventer l'eau chaude et de trouver des innovations en France pour créer un nouveau modèle de société, il valait mieux aller voir sur chaque territoire ce qui se faisait de mieux et de voir dans quelle mesure on pouvait le dupliquer et le changer d'échelle.
D'accord, donc tu as une vision comme ça d'ensemble assez intéressante et je pense que ça va nourrir évidemment notre conversation. Et par ailleurs, tu es aussi acteur d'une association, d'un collectif qui s'appelle l'École Vert.
Tout à fait. Alors en fait, quand je suis revenu de ce tour d'Europe, bon, le projet s'est essaimé un peu partout, au Brésil, etc. Mais l'idée, c'était vraiment de créer des territoires d'expérimentation incarnant ces innovations et montrant que ce nouveau modèle de société est possible. Et École Vert, justement, c'est cette incarnation-là qu'on essaie de développer à travers des services d'agriculture urbaine et périurbaine dans une logique de relocalisation du système alimentaire, de résilience alimentaire et de ce qu'on appelle des bénéfices écosystémiques, c'est-à-dire des bénéfices qui ne sont pas que liés à l'alimentaire, à savoir le lien social, des zones où les gens peuvent se réunir, la sensibilisation sur l'importance de manger bio, sain, équilibré, de manger des produits non transformés, donc l'impact sur la santé également, la lutte contre la délinquance, etc.
Ouais, et d'ailleurs, en bas de ton immeuble, j'ai vu des bacs de plants à venir qui m'ont fait penser aux incroyables comestibles.
Exactement, on est dans la même logique. Voilà. Sauf que les incroyables comestibles sont un peu plus sur une base citoyenne, avec pas de modèle économique à proprement parler, alors que Colvert, c'est vraiment un concept d'entreprise sociale, même si on est une association, avec une volonté de développer un modèle économique.
D'accord. Alors, tu as déjà prononcé un des deux mots ou une des deux expressions qui vont être au cœur de notre conversation, le mot de résilience, parce que quand on a parlé de cette conversation, tu m'as dit « Ah, j'ai envie de parler de territoires d'utopie concrète partout sur la planète et de zones de résilience. » Alors, pour pouvoir en parler et se projeter dans le futur, j'aimerais qu'on définisse un peu ces expressions.
Ok.
Territoire d'utopie concrète. C'est quoi une utopie concrète? Parce qu'on pourrait croire que ce sont deux mots qui ne peuvent pas fonctionner ensemble.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est fait exprès, ce paradoxe. C'est l'idée qu'on ne peut pas se résoudre à notre monde actuel et aux problématiques actuelles, qu'on peut rêver un autre monde et agir sous forme de prophétie autoréalisatrice. En fait, en rêvant ce monde, on le crée d'une certaine manière.
Mais c'est un peu l'ambition du podcast, de ce podcast. Bah
voilà, c'est parfait. Et que, en étant conscient des problématiques de société, donc on n'est pas des bisounours, on sait très bien qu'il y a énormément de problèmes à résoudre, on peut déjà imaginer le monde de demain, même si on va passer par des hauts et des bas et sûrement des catastrophes. Au moins, on peut rêver ce monde qu'on souhaite pour demain et commencer à l'incarner dès maintenant. Mmh. Et les zones de résilience, ce sont des zones de résistance au choc. En fait, la résilience, c'est la capacité à subvenir, enfin, à répondre aux chocs annoncés et à aller plus loin que ces chocs.
Mmh. Alors, résilience, utopie concrète, ça veut dire qu'on part d'un... Le point de départ aujourd'hui n'est pas rose, tu l'as dit, on n'est pas des bisounours. Et pourtant, tu me disais, il faut aussi savoir dézoomer pour regarder l'état du monde.
Oui, ouais, tout à fait. Par exemple, l'exemple qui incarne vraiment ça, c'est cette impression constante de violence, de par la télé, de par les réseaux sociaux, etc. On a l'impression qu'on est dans un monde ultra-violent, ce qui est aussi le cas. Mais si on prend un peu nos lunettes sur le passé, on voit que le monde n'a jamais été aussi peu violent depuis 800 ans, en tout cas dans les pays occidentaux. Que le taux de meurtre par habitant a chuté constamment, que on est beaucoup plus en sécurité. Oui. Mais malheureusement, les médias, maintenant, quand il y a un meurtre à l'autre bout de la France, tout le monde est au courant. Oui. Et donc, du coup, on a cette impression de violence qui est exacerbée, alors que pour autant, on vit dans un monde beaucoup plus en paix. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de démocratie qu'avant, même si... Bon, le concept de démocratie est un peu flou parfois, mais les démocraties se sont développées, il y a de moins en moins de guerres, on n'a jamais été dans une zone aussi longue de paix. La démographie, elle a augmenté, mais pour une raison, c'est qu'en fait, on est en meilleure santé.
Oui.
On n'a plus les douleurs que les gens pouvaient vivre il y a 200 ans parce qu'il n'y avait pas de pénicilline, il n'y avait pas de médicaments. On est vacciné, on a des radios, on a accès à des biens et services très peu chers. Enfin voilà, en fait, on peut comprendre que notre monde actuellement a jamais été aussi agréable à vivre qu'avant. Mmh. Et les personnes qui pensent que c'était mieux avant, ben je leur mets au défi de vivre il y a 200 ans et je pense qu'ils se rendront compte que c'était pas aussi rose que ce qu'on pouvait imaginer.
Oui, en fait, la vie était rose dans les récits, les romans qui parlent, et encore certains romans qui parlent d'une élite sociale, culturelle.
Tout à fait.
Sur laquelle on peut fantasmer ou pas d'ailleurs.
Complètement.
Donc un monde qui va mal, mais pas si mal, lorsque l'on dézoome, et justement à partir de cette idée d'utopie concrète et de zone de résilience, quand tu te projettes à 32 ans, donc à l'échelle des 800 ans que tu évoquais tout à l'heure, c'est qu'un pas finalement.
Tout à fait.
Mais qu'est-ce que tu entrevois? Comment tu vois ce monde?
Alors, effectivement, le monde n'a jamais autant évolué qu'aujourd'hui, et on est dans une situation qui est plutôt confortable, mais qui ne va pas, à mon avis, perdurer si on reste sur la même ligne. Parce qu'on est dans un contexte aussi de future crise systémique. On voit, donc quand je parle de crise systémique, c'est à la fois sociale, à la fois économique, à la fois environnementale et à la fois politique. Oui. Et c'est la conjonction de toutes ces crises qui font que si on ne change pas de mode de conscience ou de mode de pensée, on risque d'aller droit dans le mur.
Ben oui, parce que ce système met de plus en plus de monde sur le bas-côté, laisse de plus en plus de monde sur le bas-côté notamment.
Tout à fait. Donc il y a effectivement cette crise sociale où on voit avec des inégalités de plus en plus fortes. Et ça par contre c'est quelque chose qui est caractéristique de notre époque. Je crois que c'est 225 personnes qui ont le même pouvoir d'achat que 2,5 milliards de personnes. Donc on voit bien qu'il y a une énorme différence. C'est aussi le phénomène de concentration des richesses qui fait ça. La loi de Pareto, 20% des plus riches possèdent 80% des richesses. Il y a aussi les extrémismes qui évoluent de plus en plus. Donc, de tous côtés, pour moi, un extrême en vaut un autre à certains égards. Donc, fondamentalisme d'un côté, extrême droite de l'autre. En tout cas, la peur de l'autre est...
Qui replie les gens, qui les enferme sur des croyances, finalement.
Voilà, c'est aussi un moyen de ne pas se remettre en question, de détourner le regard et d'en faire un bouc émissaire pour pas remettre en question ses propres croyances, etc., etc. La crise économique, le phénomène de marchandisation du monde, on voit bien que maintenant, l'eau par exemple, qui est quand même essentielle à toute vie, qui est privatisée. La nourriture, en termes de biodiversité, on a perdu énormément de produits et tout est privatisé. Les semences sont privatisées, c'est quand même la base de notre alimentation. Les indicateurs économiques qui sont quand même dépassés. Le PIB, c'est un agrégat qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale dans un contexte où on avait besoin d'une augmentation de production de biens et services. Mais maintenant, on est dans un système fini, la planète Terre, et on parle de croissance indéfinie, même de manière exponentielle sur un système fini. Donc il y a un non-sens
Et
quelque
oui, il y a
part.
un non-sens, et ça me fait penser à ça tout récemment, il y a quelques semaines ou en fin d'année dernière, je lisais un article, peut-être des Échos, mais je ne peux pas les stigmatiser, peut-être que c'était pas d'eux, peu importe. L'article en fait faisait une projection des nations en 2050, mais uniquement en utilisant les indicateurs de PIB. Et je disais, mais rien que de le principe de faire cette projection, c'est se tromper.
Complètement, on est d'accord. Et on voit des incohérences incroyables. Je crois que c'est l'Italie qui a rajouté dans son PIB la criminalité et l'économie criminelle pour augmenter son PIB. Mais est-ce que, du coup, cet indicateur traduit le bien-être des gens quand on met l'économie criminelle dedans? Je ne suis pas sûr. Voilà. Et donc, il y a tout ce système, le système monétaire, pareil, le système d'argent-dette pourrait expliquer pendant longtemps. Mais il y a un phénomène aussi de centralisation avec la spéculation, la finance internationale, qui fait qu'il y a une résilience qui est quand même très diminuée. Et on l'a vu en 2008, un choc quelque part pourrait détruire le système en
Ouais, c'est
entier.
ça.
Et enfin, il y a aussi la crise politique, mais la crise qui, à mon avis, est la plus problématique, c'est la crise écologique. On parle de l'ère de l'Anthropocène, donc c'est l'époque où l'être humain est devenu une force géologique suffisamment puissante pour modifier la planète entière. On parle de bouleversement climatique, donc pas que réchauffement, mais avec des conséquences qui vont être très diverses partout sur la planète. On parle de chute de la biodiversité.
Ouais, c'est
Voilà.
à une vitesse affolante.
Complètement, on est dans la sixième crise d'extinction de la planète en termes de biodiversité. Donc c'est pas rien. La dernière fois, c'était quand même les dinosaures qui ont
Ouais, voilà, c'est
disparu.
ça.
Donc c'est pas rien du tout. Les destructions des écosystèmes avec la déforestation, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, etc. Et sur chaque sujet, il y a des chiffres qui sont alarmants et qui nous disent que c'est dans ces 10 ou 20 prochaines années qu'il faudra complètement transformer notre modèle. Sinon, il faudra probablement aller vivre ailleurs, quoi. Et c'est un peu compliqué. Bon, il y a des gens comme Elon Musk qui pensent qu'on peut terraformer Mars.
Voilà, c'est ça.
C'est une
Mais
possibilité.
ça reste un plan B, voire un plan
Exactement.
EMG, je sais
Tout
pas.
à fait. Et peut-être qu'il est mieux de prendre soin de notre planète plutôt que de s'imaginer aller créer des planètes ailleurs. Ce sera plus simple et peut-être économiquement moins coûteux.
Exactement, ouais, plus viable.
Voilà. Et donc, en fait, dans ce contexte de crise systémique, l'idée d'utopie concrète et de zone de résilience, c'est d'incarner déjà le monde qu'on veut voir pour demain, peut-être après la catastrophe qui pourrait s'annoncer ou pas. Voilà, là-dessus, on ne sait pas trop.
Donc en 2050, dans 32 ans, comment tu vois, on va rester à l'échelle française ou européenne, mais une zone d'utopie concrète, un territoire d'utopie concrète, ça ressemble à quoi?
Alors, avant de montrer ce que ça peut ressembler, on va dire physiquement, je pense que c'est les gens qui sont à l'intérieur qui vont l'incarner et qui vont pouvoir créer cette zone. Et il me semble que pour pouvoir créer ce genre de zone de résilience, donc on pourrait appeler ça un éco-village, un éco-quartier, mais socialement inclusif, pas que pour ce qu'on peut appeler les bobos, eh bien, c'est tout notre système de pensée qui mérite d'être pensé. Et là, si on voit notre monde actuel, on peut imaginer que, si on résume très schématiquement, il y a trois systèmes de pensée qui préfigurent notre monde. Il y a le mode de pensée actuel qui correspond, on va dire, au moderniste, qui est hérité du siècle des Lumières et qui, en fait, est la société civile actuelle qui a lutté contre, par exemple, le pouvoir religieux au XVIIIe siècle, etc., qui était la bourgeoisie, et qui a comme valeur fondamentale la liberté la liberté individuelle et l'égalité. Et qui a façonné notre monde de telle manière à ce que on peut, et ça c'est un peu aussi les entrepreneurs américains, les self-made men, etc., que le temps c'est de l'argent, qu'on peut à travers la science et la technique répondre à tous les enjeux de notre époque. Et c'est marrant parce que quand on parle, par exemple, quand je parle à mon père, etc., on sent bien que, ou à mon beau-père, on sent bien qu'en fait, peu importe les problématiques de société ou les problématiques écologiques, ils diront, mais non, mais de toute façon, la science va répondre à ces problèmes.
Ouais.
Et il y a quand même cette croyance très très forte. C'est cette croyance aussi que, au matérialisme, la croyance du matérialisme, le paraître aussi qui peut être important. Et en fait, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce monde actuel et qui sont déclassés. Et c'est la deuxième typologie, ce sont les gens qui sont, qu'on pourrait appeler les traditionnalistes, qui sont un peu plus sur des valeurs de famille, de patriarcat un peu parfois, de fondamentalisme, où le passé est un passé fantasmé.
Rassurant, d'une certaine manière.
Rassurant, c'était mieux avant. Donc ça peut être un islam radical, par exemple, qui va dire qu'il faut revenir à l'époque de Mahomet. Mais ça peut être aussi des personnes en zone rurale qui veulent revenir à l'ancien temps, voilà, ou des chrétiens qui, pareil, enfin, c'est pas que religieux d'ailleurs, hein, c'est tout type de personnes, mais c'est voilà, revenir à un passé qui était mieux. Et de ça se dégage une troisième typologie de personnes, qui est en fait un peu la convergence des mouvements sociaux des années 60, donc les mouvements psycho-spirituels, New Age, etc., les hippies des années 60, les mouvements sociaux aussi, post-apartheid, les mouvements pour la liberté des personnes de couleur, les mouvements féministes, les mouvements altermondialistes. Et tous ces mouvements, en fait, ont agrégé des nouvelles valeurs pour le monde de demain, qui sont, en fait, on va dire, six systèmes de valeurs, des valeurs qui sont dites féminines dans notre système, dans notre monde actuel, donc c'est pas forcément que les femmes qui les incarnent, mais elles sont plutôt assimilées aux femmes.
Aux femmes aujourd'hui.
C'est-à-dire l'empathie, la bienveillance.
Tout le care.
Voilà, exactement, tout à fait. Les valeurs de solidarité. Le fait de montrer que la diversité est une force plutôt qu'une faiblesse, et que c'est l'enrichissement via cette diversité qui permet d'améliorer notre société. L'écologie, donc l'écologie extérieure. On a pris conscience que notre monde était fini à l'époque des images satellites, les premières images de la planète Terre, etc., dans les années 60. Et l'écologie intérieure, que en fait on peut pas. Le monde qu'on crée, c'est par rapport à notre propre représentation du monde, et que c'est d'abord notre changement intérieur qui fera
qui
le changement extérieur, etc. Donc c'est tout un système de valeurs qui s'est développé de manière assez individualisée, quand même. Donc c'est ce qu'on appelle les créatifs culturels, ou les créateurs de culture. Et en fait, ils n'existent pas en tant que classe, cette typologie de personnes. Mais par contre, ils sont passés de bobos qu'on écoute à peine dans les années 80-90 à leaders d'opinion. Et commencent déjà à transformer notre modèle et à créer ces zones d'utopie concrètes.
Alors, ces créatifs culturels, je crois que c'est un sociologue américain, Paul Ray, je crois, qui avait mis... Et par contre, je me souviens d'un... Alors, je ne sais plus si c'était un article ou un bouquin de Richard Florida qui avait été assez remis en cause, parce que, justement, il donnait l'impression que le créatif culturel, il en créait quasiment une classe qui était urbaine, formée... et donc que cette troisième voie, on va dire, qui peuvent porter cette envie d'une utopie concrète, elle est loin d'être représentative de la société aujourd'hui. Ça reste
Effectivement, Paul Acheret, me semble-t-il, dans ses écrits, montre que ce n'est pas que on va dire la classe très intellectuelle, etc., mais que même dans les zones rurales, un peu partout dans le monde, se sont créés ces systèmes de valeurs-là. Et en fait, ça rejoint aussi des grandes traditions millénaires. On peut parler du bouddhisme, du taoïsme, etc. Donc, ce n'est pas que des choses récentes. On fait un lien avec des traditions qui sont très, 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 très longues et qui permettent de rapprocher. Et c'est au même titre que la science quantique se rapproche de la spiritualité, et qu'on voit que des avancées scientifiques majeures, en fait, confirment des intuitions qu'on avait il y a super longtemps via les grandes religions. Donc je pense pas que ça soit quelque chose d'une élite, mais que c'est quelque chose qui se dissème un peu partout, enfin qui s'essaime un peu partout, même si effectivement ce sont des gens qui sont de manière générale un peu plus cultivés, qui regardent moins la télé, qui sont plus sur internet, qui ont une vision qu'on appelle holistique des choses, et qui développent beaucoup plus leur partie du cerveau qui permettent de comprendre la vision globale et les interactions entre ces enjeux, etc. Mais quand bien même ce serait une élite, c'est Margaret Mead qui explique bien que ne doutons jamais que 5% de la population peut changer le monde. C'est d'ailleurs toujours comme ça que ça s'est passé. Et peut-être que cette élite pour demain va permettre ce changement de paradigme et diffuser dans toutes les classes sociales ces nouveaux modes de pensée.
Ouais, et puis on peut entendre le mot élite différemment de son sens, on va dire, banal aujourd'hui. Une élite peut être parce que là, on parlerait d'une élite par les valeurs qu'elle porte et non pas par sa puissance, soit économique, politique.
Tout à fait. Et en fait, ces créatifs culturels renversent aussi la notion de valeur. C'est-à-dire que l'élite actuelle, la valeur est très assimilée à la puissance financière et à, on va dire, à son emprise sur. C'est même l'ego des personnes qui fait ça, sur son emprise sur, sur les autres. Alors que là, la valeur est détournée. Et c'est par exemple, pour moi, une infirmière qui sauve des vies a bien plus de valeur qu'un trader à la City qui crée des produits dérivés. Et pour autant, notre société actuelle va payer beaucoup plus le trader de par la pseudo-valeur qu'il crée. Et les créatifs culturels, eux, par leur système de valeur, ils se prônent plus l'être plutôt que le paraître. Et ils vont peut-être être moins dans tout ce qui est un peu bling-bling, mais plus dans ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. Voilà, et dans des comportements de coopération qui ne sont pas là pour écraser les autres, mais qui sont là pour valoriser chaque individu dans son individualité, en fait.
Alors, retournons en 2050. Ces créatifs culturels, grâce à leur engagement et le fait d'avoir essaimé autour d'eux, à quoi ça ressemble,
et ben, à mon avis, on va être dans un monde très glocal, si je puis dire, donc à la fois avec des enjeux très globaux, et c'est pour ça qu'il y a plein de débats sur une possible gouvernance mondiale, etc., une sorte de mondialisme qui fait très peur aussi, parce que ça dépend comment il va évoluer, mais le bouleversement climatique, tout ça, c'est hors des frontières. Donc il y aura des enjeux globaux qu'il faudra répondre aussi de manière très localisée par rapport au contexte, parce que si on répond tout de manière globalisée, à mon avis, ça sera catastrophique sur certains territoires, ça ne correspondra pas aux solutions, etc. Donc il faut trouver des solutions très locales avec des gens qui ont conscience des enjeux globaux. Et pour ça, il faut comprendre aussi tous les modèles économiques d'avenir qui sont en train d'émerger, d'avenir ou pas d'ailleurs, qui existent depuis longtemps. L'économie sociale et solidaire en est un, l'économie circulaire, l'économie contributive, le social business, le développement durable, la RSE.
L'économie de la fonctionnalité aussi.
Exactement, symbiotique, collaboratif. Enfin voilà, il y a plein de mots valises comme ça qui peuvent rassembler des innovations intéressantes. Et c'est la conjonction de ces innovations qui, à mon avis, vont permettre de répondre aux enjeux et de créer ces zones d'utopie qui sont... qui peuvent être souvent à l'échelle de territoire, je pense. C'est vraiment, on le voit d'ailleurs, un maire
De bassin de vie, en fait, de petits bassins de vie.
Exactement. Ouais. On le voit, les maires de ville ont quand même parfois plus de possibilités de changement que les présidents des États, ou, etc.
D'ailleurs, on voit, je pense à la COP21, ou même depuis, des grandes villes s'engagent, et je pense aux États-Unis où Trump est plutôt en recul, et où finalement les villes, les grandes villes, continuent à avancer plus vite et plus fort, finalement.
Tout à fait. Donc je pense que vraiment, c'est... Et Jacques Attali le dit bien dans Une brève histoire de l'avenir, on est passé... C'était des villes-cœurs, en fait, et c'était des villes-mondes qui dirigeaient notre société. Et on va y retourner, d'une certaine manière. Ce sera un monde polycentrique, il n'y aura plus de pouvoir hégémonique américain, mais il y aura des zones de pouvoir un peu partout qui vont, et on le voit bien en Europe par exemple, Copenhague c'est la ville qui se place sur l'économie verte, développement durable, Amsterdam un peu sur ce qui est le concept de Smart City, il y a Barcelone, la Fab City, enfin chaque ville essaye de se positionner sur un peu des modèles d'avenir. Et je pense que ça sera ces zones-là qui permettront de créer de la résilience et qui, par exemple, essayeront d'avoir une résilience alimentaire, donc un approvisionnement plus local, plus de qualité, des résiliences énergétiques.
Donc, passer donc là, résilience, c'est aussi un équivalent d'une certaine souveraineté ou autonomie dans ton propos. Là.
Autonomie qui ne veut pas dire autarcie. Donc c'est effectivement... de développer des formes d'autonomie pour ne pas être trop dépendant. Et on le voit, là, tous les problèmes de société, problèmes géopolitiques, c'est lié quand même à une dépendance du pétrole et du gaz, des métaux précieux, etc. Enfin, les guerres...
Voilà, il y a eu des articles tout récents qui montrent bien comment le climat est un facteur aggravant des conflits, que ce soit aussi en Syrie, enfin dans tout le Moyen-Orient.
Tout à fait, complètement. Et tout ça, c'est lié au pétrole, quand même majoritairement. Donc plus on va développer une forme d'autonomie, sur ces grands besoins en fait de notre société qui sont le besoin énergétique, le besoin alimentaire, qui sont corrélés par ailleurs, hein, parce que pour l'instant, notre système de production alimentaire est basé sur le pétrole. Et donc c'est aussi cette résilience qu'il faut créer à travers des pratiques agroécologiques, permacoles, etc. Et donc à mon avis, en résolvant ces problématiques énergétiques, alimentaires, etc., ce qui va être assez difficile et peut-être un peu douloureux, on arrivera à vivre de manière un peu plus en paix, sans problématiques géopolitiques un peu partout, et à pouvoir aider aussi les autres zones de la planète et à incarner cette utopie concrète
Ouais.
qu'on
Donc
souhaite.
ça veut dire que en 2050, alors que l'on soit un urbain ou un rural, finalement on trouvera de quoi remplir son assiette pour la semaine dans un rayon de 30,
Idéalement.
40 km autour de chez
Ouais.
soi. Le boulot sera là et à la fois on sera ultra connecté, on restera être
Ouais, tout à fait.
connecté.
Bah, je dis pas que c'est le monde qui va arriver pour 2050. C'est encore une fois une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que au lieu de s'imaginer que il y aura plus de pétrole, donc du coup on va revenir à un passé à la bougie comme on peut entendre parfois et que on sera là en mode survie, et ben essayons de construire déjà un modèle qui permette de ne pas revenir dans un passé qui serait destructeur. Et que, effectivement, par exemple, une relocalisation agricole, c'est dans le film Demain qu'on voit que, par exemple, toute civilisation disparaît d'abord par ses problématiques alimentaires. Et que là, du coup, Paris, s'il y a la moindre catastrophe, un volcan, des choses comme ça, la ville a 3 jours d'autonomie alimentaire. Donc, au bout de 3 jours, il n'y a plus de nourriture dans aucun supermarché. Donc, et les gens qui sont en situation, les urbains, n'ont pas beaucoup de capacité de résilience par rapport à ça. À part à boire l'eau des toilettes et avoir les quelques conserves qui restent, on n'ira pas très loin. Donc la résilience, elle est très faible. Et là, d'agir à l'échelle d'un territoire, donc par exemple l'Île-de-France, d'utiliser la ceinture aussi autour de l'Île-de-France pour avoir une plus grande résilience, c'est passer d'un système qui est ultra spécialisé. Donc par exemple, en Île-de-France, c'est plutôt des céréales. À un système beaucoup plus décentralisé, polysémique, enfin polyculture en
Culturel,
l'occurrence,
voilà,
voilà,
diversifié.
diversifié, où on mangerait un petit peu moins de viande, mais par contre on aurait une autonomie en légumes et en fruits, et s'il y a une catastrophe, eh ben, on est prêt à y répondre grâce à cette forme de résilience.
On pourrait imaginer qu'il faudrait que dès maintenant, les territoires qu'on construise un indice de résilience qui mettrait en regard, peut-être que ça existe.
Ça
Ça
existe.
existe,
Ouais, tout à
super.
fait.
Donc qui mettent en regard voilà, les
Ouais.
enjeux environnementaux, économiques, sociaux
Ouais.
pour justement voir le chemin
Alors, ça
à faire.
n'existe pas exactement. C'est-à-dire que ça va être par secteur. L'énergie, par exemple, l'énergie, on pourrait parler des scénarios prospectifs de Négawatt, qui parlent de comment on pourrait arriver à une résilience à travers la conjonction de l'efficacité, la sobriété et le renouvelable. Au niveau alimentaire, il y a un indice qui a été créé par Utopie d'autonomie alimentaire. On voit que le meilleur, je crois, il est à 6% d'autonomie alimentaire, donc on n'y est pas encore. Il y a les programmes alimentaires territoriaux qui se sèment un peu partout. Donc on a quand même des bases de travail pour le faire. Et puis après, on pourrait parler de la démocratie, de l'éducation, de l'habitat, qui est très lié à l'énergie d'ailleurs. Il y a plein d'autres secteurs qui sont concernés, de l'inclusion sociale. Il n'y a pas que, je parle d'agriculture et d'énergie, parce que ce sont des sujets très concrets, mais il y en a plein des secteurs où il faudrait avoir ce genre de résilience.
Et pour avancer concrètement vers ce schéma à l'horizon de 30 ans, on le disait, c'est
Ouais.
pas grand-chose, qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir changer rapidement aujourd'hui? Est-ce que c'est une prise de conscience plutôt dans la sphère politique? Parce qu'on sent cette envie, cette
Ouais.
appétence dans la rue, c'est plutôt du côté politique, économique.
Alors, je ne mettrais pas un ou, mais plutôt un
Ah,
et,
ouais.
puisqu'en fait, et c'est là où parfois c'est compliqué, par exemple, moi j'ai une posture quand même assez militante, quand je parle à des gens très militants, ils vont me dire, mais vous bossez avec les grandes entreprises, mais vous êtes des loups capitalistes, etc. Et moi je leur dis, mais en fait, les grandes entreprises, elles sont très puissantes, et on ne fera pas sans elles, on ne pourra pas changer
On
sans
peut
elles.
pas, ouais, ce changement-là, il peut pas se faire dans une confrontation simpliste, quoi, les bons et les méchants.
À mon avis, sinon on va perdurer dans la confrontation pendant très longtemps. Il faut être conscient qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des dérives, mais il y a aussi des très bonnes volontés dans ces entreprises. Il y a des individualités qui veulent vraiment changer les choses et que la macrostructure est très difficilement déplaçable. Et l'État, pareil, en fait. Il y a des bonnes volontés au sein de l'État, mais c'est très difficile de déplacer un paquebot aussi gros. Et je pense que c'est la conjonction des actions de la société civile qui doit être, à mon avis, la plus porteuse. Parce que c'est
la plus
idées.
Réactive aussi. Parce que l'inertie du paquebot d'un État...
C'est la plus réactive, c'est la plus créative. C'est la plus émotionnellement aussi puissante de par ses revendications. Doit permettre d'activer les entreprises, d'activer l'État et toutes les collectivités, et d'activer un peu tout le monde pour arriver à ce changement. Et même la religion, le pape a fait une encyclique pendant la COP21 sur ça. Je pense que ces pouvoirs religieux, islamiques, judaïques, doivent aussi s'approprier la transformation, la résilience des territoires. Et je pense que ça va dans leur... conception aussi spirituelle d'aboutir à un monde meilleur.
Alors, je te sens plutôt optimiste. Après, la question que je me pose toujours, c'est quand on est justement comme toi, acteur de ces sujets, qu'on les regarde, donc quand on, comme les scientifiques, quand ils cherchent quelque chose, ben, ils le voient, on le trouve plus facilement. Est-ce qu'on n'a pas un risque de justement d'être dans une bulle et
Si. Complètement, et c'est l'effet bulle qu'on peut même voir à travers les réseaux sociaux. Tout ce qu'on « like », entre guillemets, après nous revient dessus, et on reste constamment dans ce monde. Et alors, d'un côté, je pense être dans cette bulle, volontairement. C'est l'idée que quand on est dans l'indignation et dans le conflit, je ne suis pas sûr qu'on soit très heureux. Ou alors, ce sont des bénéfices secondaires, liés à nos propres mécanismes internes. Être dans la sensation d'être dans le bon sens, dans des choses construites, permettent quand même d'avoir une vie globalement heureuse, puisque moi je rencontre que des gens qui veulent aller dans la construction, qui veulent construire des choses positives, etc. Donc c'est aussi un peu volontaire, parce que aussi je pense qu'on n'a pas trop de temps à perdre, et me préoccuper des gens qui ne veulent pas agir... à mon sens, parfois, c'est perdre du temps. Parce que convaincre quelqu'un qui a 50 ans, qui a déjà son système de pensée, c'est très chronophage, c'est très fatigant. Alors que, par exemple, aller chercher des individualités en école, à la fac, etc., qui ont encore tout à construire, et les mettre dans le bon sens et essayer de les faire agir, à mon avis, c'est juste placer son énergie là où on pense qu'elle est le plus utile.
Et où l'effet d'entraînement sera le plus fort.
Exactement. Après, il ne faut pas oublier effectivement dans quel monde on vit et pas rester trop dans sa bulle. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien alterner des lectures, même des lectures très difficiles d'extrême droite, ou pour comprendre aussi qu'on n'est pas que dans ce monde positif, qu'il y a des catastrophes partout, qu'il y a des génocides. On est un monde très destructeur. Donc c'est alterner entre cette indignation, mais qui peut parfois être trop passive, et cette action qui est plus dans la construction.
D'accord, très bien. Alors pour finir, Boris, il te reste à formuler un vœu pour 2050.
Alors, j'avoue que je n'avais pas encore trop réfléchi. Je pense que de par mon métier, donc Colvert, on crée des collectifs. Qui vont aboutir à des zones de résilience, si tout se passe bien. Et mon vœu, ce serait que d'ici 2050, ça ne soit plus Colvert ou Colibri, par exemple, qui développent des oasis, mais que ça soit la norme, en fait, et que ces zones de résilience s'essaiment partout sur la planète, et qu'elles soient socialement inclusives, qu'elles ne soient pas réservées à une élite qui a la richesse, mais que, que n'importe quelle personne dans le monde puisse avoir de la nourriture saine, de qualité, accès à des services de santé et aussi puisse s'approprier sa propre vie.
Très bien.
Voilà.
Parfait. Et ben, et puis on pourra se balader de ces zones de résilience en zone de résilience.
C'est ce qu'on fait un peu et c'est plutôt confortable de pouvoir voyager et de voir tous ces gens qui agissent partout.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Finalement, ces utopies concrètes naissent par bribes. Un peu partout, et j'en suis sûre, vous en connaissez, voire vous y participez déjà. Reste à les cultiver patiemment, avec amour et justesse. Néanmoins, en écoutant Boris, je me suis posé cette question. Quel est mon niveau de résilience à moi, petite Rebecca? De 1 à 10, où vous situeriez-vous? Pour moi, j'ai du mal à l'envisager. Sans doute pas très loin de néant, en fait. Mais peut-être qu'on apprivoise la résilience petit à petit et dans un premier temps en imaginant des futurs possibles souhaitables aussi. Tiens donc, pourquoi pas grâce à un podcast? Alors imaginons puis cultivons ces utopies. Et pour être nombreux à y plonger, je vous confie la mission de faire vivre cet épisode sur les réseaux sociaux, à laisser aussi vos étoiles sur iTunes. Ces étoiles, vous savez, c'est comme de petits cailloux blancs que vous déposez délicatement pour indiquer à d'autres le chemin du futur. Bref, abonnez-vous, partagez, imaginez et soyons toujours curieux.